7h43 que je vous repasse la main, Julien Coquelle-Rohem.
Merci Arthur Fonchelet. À tout à l'heure et tout de suite les sports. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Julien.
Le football est la cinquième journée d'éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Suspense relancé dans la plupart des groupes.
Notamment le I où le Mali, vainqueur des Comores 3-0, s'est relancé avant la phase retour. Dans la poule F, le Gabon a provisoirement pris la tête en dominant les Seychelles, 3-0 là aussi. Et dans le groupe D, le Cap-Vert saisit l'occasion de dépasser le Cameroun en dominant l'île Maurice 1-0.
Suite de cette cinquième journée ce vendredi avec 11 matchs et une RDC qui n'a plus d'excuses.
Seulement troisième du groupe B derrière le Soudan et le Sénégal, les Léopards doivent battre le Soudan du Sud et ils compteront pour ça sur le grand retour de Cédric Bakambu, Olga Massangou.
Bah moi je suis content de revenir en sélection nationale après plus d'une année.
C'est la principale attraction de ce premier rassemblement de l'année pour les Léopards de la RDC. Éloigné de la sélection depuis plus d'un an pour cause de blessures à répétition, Cédric Bakambu, l'un des cadres de la sélection congolaise, signe son retour dans un groupe dont il était cadre, mais où il devrait se battre, malgré sa forme actuelle avec le Betis Séville, pour retrouver sa place à la pointe de l'attaque.
C'était long pour moi, on sait ce qui m'est arrivé, j'ai eu une grave blessure, mais aujourd'hui c'est derrière moi, c'est grâce à mon travail aussi, le coach ne fait pas de cadeaux. Si je n'étais pas bon en club, il n'allait pas m'appeler. Il va falloir que je reproduise ce que je fais en club, maintenant en équipe national et je suis motivé pour le faire.
Surtout que l'enjeu pour le sélectionneur national Sébastien De Sabre est d'être parmi les deux premiers du groupe.
À l'heure actuelle, on n'est pas qualifié parce qu'on n'est pas premier ni deuxième, parce qu'il y a aussi le meilleur deuxième qui peut se qualifier. Aujourd'hui, par contre, j'estime qu'on est placé, qu'on est à un point du Sénégal, à trois points du Soudan, qu'on reçoit le Soudan du Sud pour clôturer la phase aller. Donc on va faire le point après les cinq matchs, parce qu'au final, ce qui est important, c'est d'avoir son destin entre ses mains.
Après leur dernier match perdu à domicile contre l'Éthiopie en novembre 2024, les Léopards ont à cœur de gagner la rencontre de ce vendredi pour se racheter auprès de leur public. Olga Massangou, Kinshasa, RFI.
RDC Soudan du Sud, coup d'envoi 16h, temps universel, une cinquième journée qui verra notamment la Côte d'Ivoire aller au Burundi pour reprendre la tête du groupe F.
Un mot d'olympisme pour finir et de la nouvelle ère qui s'ouvre au CIO.
Avec l'élection de Kirsty Coventry dès le premier tour, un symbole, estime Mustapha Beraf, le président de l'ACNOA, l'association des comités olympiques africains.
C'est un grand moment, un moment historique pour nous tous. Kirsty Coventry est une championne olympique, une femme, une mère de famille et surtout une grande athlète. Je crois que on peut s'enorgueillir de dire que cette Africaine qui a toujours eu les couleurs de l'Afrique dans le cœur nous remplit d'orgueil et de fierté. Et je suis sûr qu'elle fera au mieux pour être à la hauteur de la confiance qui a été placée pour elle. Elle est passée au premier tour, c'est important, c'est autour de l'Afrique et autour de la femme de montrer ses capacités, ses qualités intrinsèques, son sens moral et son intégrité. On fait d'elle la femme idéale pour diriger le mouvement olympique international qui base tous ses objectifs sur la bonne gouvernance et la clairvoyance.
Mustapha Beraf avec Christophe Dirindian.
Et Antoine Grenier pour le journal. Merci beaucoup, à tout à l'heure.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquelle-Rohem.
Il dénonce une décision dans l'intérêt personnel de Benjamin Netanyahou. La réaction de Ronen Bar à son limogeage voté hier par le gouvernement israélien. Le chef du Shin Bet, les renseignements intérieurs israéliens, qui affirme être évincé pour empêcher les enquêtes sur les événements qui ont conduit au 7 octobre et sur d'autres affaires graves examinées par ses services. L'annonce dimanche de sa future révocation par le Premier ministre avait déjà provoqué la colère de l'opposition et des manifestations ont à nouveau eu lieu hier soir en Israël. Alors que dans le même temps, la reprise de l'offensive israélienne sur Gaza se confirme un peu plus, avec une reprise des opérations au sol à Rafah dans le sud, le Hamas a tiré hier des roquettes en direction de Tel Aviv et dénombre plus de 500 morts palestiniens. Depuis mardi, le président israélien se dit troublé par la reprise des combats, une rare critique d'Isaac Herzog contre son premier ministre. Un nouveau sommet des pays prêts à garantir un éventuel accord de paix en Ukraine annoncé pour jeudi prochain à Paris, en présence de Volodymyr Zelensky. Et puis une journée chaotique à prévoir dans les airs. L'aéroport de Londres Heathrow, l'un des 5 aéroports les plus importants au monde, à l'arrêt jusqu'à minuit à cause d'une coupure de courant. Il opère plus de 1300 décollages et atterrissages chaque jour. une élection éclair, surprise, un moment qui restera sans doute gravé dans l'histoire du sport. C'était hier, l'élection de Kirsty Coventry à la tête du CIO, le Comité International Olympique, première femme, première personne venue d'Afrique à en devenir la présidente. La double championne olympique de natation zimbabwéenne l'a emporté dès le premier tour face à 6 candidats. Comment a-t-elle été élue? Pourquoi? Qu'est-ce que cela signifie pour le continent africain? Jean-Loup Chaplet, professeur émérite à l'Université de Lausanne, grand spécialiste du mouvement olympique, et notre grand invité Afrique avec Christophe Jousset.
Jean-Loup Chaplet, bonjour.
Bonjour.
Vous observez la vie du mouvement olympique depuis plus de 50 ans. Quelle a été votre réaction en apprenant la victoire de Kirsty Coventry?
Ça a été un peu une surprise, effectivement, parce qu'avec 7 candidats, tout le monde attendait plusieurs tours de scrutin et elle a gagné au premier tour, au-delà de la majorité absolue. C'est quand même un exploit et c'est une très bonne nouvelle, moi je trouve, pour le CIO et pour toutes sortes d'autres raisons.
On citait deux favoris supposés, Juan Antonio Samaranch Jr. qui obtient 28 voix, Sebastian Coe se contente de 8 voix. La surprise est effectivement considérable.
Oui, Sebastian Coe était vu comme un favori, surtout par les médias, et les médias britanniques en particulier, parce qu'il a fait une campagne orientée sur les médias et sur les réseaux sociaux. Mais ceux qui votent, ce n'est pas les journalistes, ce n'est pas les gens qui regardent les réseaux sociaux, c'est les membres du CIO. Et il y a la moitié de membres qui sont des femmes aussi. Et il y a une incontestable poussée des athlètes parmi les membres et des personnes assez jeunes aussi. Je pense que l'âge a joué un rôle. Autrefois, pour être président du CIO, il fallait environ 60 ans. Aujourd'hui, Kirsty Coventry a 41 ans.
On continue de voir le CIO comme un mouvement plutôt conservateur. On se trompe?
Oui, je pense que depuis longtemps, le CIO a évolué. On n'est plus autant de Coubertin. On est au 21e siècle. Et au 21e siècle, le pouvoir des athlètes est de plus en plus important. Et Kirsty Coventry a quand même gagné 7 médailles, dont 2 d'or. Ce qu'il a fait, la première présidente du CIO qui est autant médaillée.
Quel a été le poids du soutien du président sortant, Thomas Barr, dans la victoire de Kirsty Coventry, selon vous?
Je pense qu'il a été essentiel. Je pense qu'il a déjà incité Kirsty Coventry à être candidate en tant qu'athlète, en tant que présidente de la commission des athlètes à un moment donné. En tant qu'africaine aussi, je pense qu'il a favorisé cette candidature parce qu'il y a vu en plus, pour le CIO, un coup de jeûne, si j'ose dire, pour le CIO.
On dit que Kirsty Coventry avait le programme le moins concret des 7 candidats. Elle a été habile?
Je ne crois pas que ce soit vrai. Il y a des choses très intéressantes dans ces manifestes. C'est sûr que présider le CIO doit tenir compte des évolutions de la société et des changements. Et on ne peut pas prendre de position absolue sans tenir compte de ce qui se passe dans le monde, par exemple l'élection de Donald Trump aux États-Unis, parce que le premier défi de la présidente du CIO, ça sera d'avoir des Jeux Olympiques en 2028 à Los Angeles et de gérer la question des athlètes féminines. Le président des États-Unis tient à ce que, à juste titre d'ailleurs, que des femmes puissent participer à la catégorie féminine.
À propos de l'accès des athlètes transgenres aux Jeux Olympiques de Los Angeles, Kirsty Coventry a dit « Nous ne dérogerons pas à nos valeurs de solidarité ». C'est un bras de fer qui s'annonce avec Donald Trump?
Non, je pense pas. La solidarité, elle doit être avec les athlètes qui sont femmes, c'est-à-dire qui sont biologiquement avec le chromosome XX. Et ça, c'est quand même la première solidarité pour que ces athlètes puissent concourir de façon sûre et avoir une chance de gagner une médaille.
C'est la première fois que l'Afrique se retrouve à la tête du Comité international olympique. Est-ce que pour 2036, qui sont les prochains Jeux d'été à attribuer, ça peut être décisif, ça peut être une première pour l'Afrique?
Ça peut l'être, mais c'est loin d'être certain, parce qu'il n'y a pas pour l'instant de candidature africaine aux Jeux de 2036. Alors peut-être la décision d'aujourd'hui créera des candidatures, par exemple en Afrique du Sud, par exemple au Maroc ou ailleurs en Afrique, mais il y a aussi des candidatures en Asie et il y a une rotation des continents après donc l'Europe avec Paris 2024, les États-Unis avec Los Angeles 2028, l'Australie avec Brisbane 2032, ça peut être aussi le tour de l'Asie ou de l'Afrique.
Jean-Louis Chapelet, merci.
Le spécialiste du mouvement olympique Jean-Louis Chapelet, invité RFI Matin de Christophe Jousset. Actualité des matières premières, comme chaque matin de la semaine. Bonjour Marie-Pierre Olfand.
Bonjour.
La société minière russe Alrosa a décidé de suspendre l'exploitation de ses gisements de diamants les moins rentables. Et cette mesure illustre la volonté du numéro 1 mondial de diminuer sa production.
Oui, une stratégie annoncée en novembre dernier et qui se matérialise aujourd'hui donc par cette décision qui concerne les gisements dont la production annuelle est inférieure à 1 million de carats, c'est-à-dire les moins rentables. Plusieurs sites en Yakoutie, la région où sont extraits la majorité des diamants russes, pourraient être affectés. Alrosa prévoit cette année une production de 29 millions de carats contre 33 millions l'année dernière et un peu moins de 35 l'année d'avant. Une baisse notable qui reste toutefois dans la moyenne de ce que produit le géant minier russe chaque année.
Cette suspension va surtout permettre au leader du diamant de réduire ses coûts.
Alrosa va pouvoir effectivement tailler dans ses effectifs, aujourd'hui évalués à 35 000 personnes. C'est une façon de réduire les frais dans un contexte géopolitique difficile. Les pays du G7 et de l'UE ont en effet interdit les importations de diamants russes depuis un peu plus d'un an, ce qui a obligé Alrosa à réorganiser une partie de son commerce de pierres. L'entreprise a aussi directement pâti d'un secteur en petite forme ces deux dernières années, en raison d'une demande en berne qui a fait baisser les prix.
Alors Marie-Pierre, cette nouvelle stratégie d'Alrosa veut-elle dire que l'entreprise va très mal ?
Alors, c'est sûr, Alrosa a connu des jours meilleurs. Ce n'est pas pour rien que la société affiche une volonté de faire des économies et qu'elle a vendu ces derniers mois une partie de sa production à l'État pour être certaine de l'écouler. Le géant minier a vu son chiffre d'affaires baisser de 25% l'année dernière, mais on peut tout de même relativiser. L'entreprise a vendu pour plus de 2 milliards de dollars de diamants, et ce grâce à une réorientation de ses exportations vers l'Inde et vers Dubaï. Cette année, Alrosa devrait profiter d'une consommation qui se redresse doucement et de prix qui repartent à la hausse. En témoignent les dernières ventes de ce mois-ci au Botswana, l'autre pays du diamant. Plusieurs lots de pierres brutes se sont vendus 10 à 15% plus cher que le mois dernier.
Marie-Pierre Olfand pour les matières premières. Merci beaucoup.
RFI Matin.
Et dans les dessous de l'Infox, ce matin, le Canada, alors que face aux déclarations hostiles de Donald Trump, les tensions avec le voisin américain poussent le pays à se tourner vers l'Europe. Des photos discréditant le nouveau Premier ministre libéral Mark Carney ont fait leur apparition sur les réseaux, des images trompeuses fabriquées de toutes pièces qui font suite à une campagne de désinformation qui visait déjà le nouveau chef du gouvernement, tout cela alors que des élections législatives anticipées ont été annoncées hier pour le 28 avril. Bonjour Olivier Four.
Bonjour.
C'est toujours le même procédé, faire apparaître le candidat libéral devenu Premier ministre la semaine dernière en compagnie de personnalités sulfureuses.
Oui, et c'est précisément une photo qui a retenu notre attention. Elle est apparue mi-mars, elle fait penser à une photo de vacances. On y verrait Mark Carney assis sur une chaise de plage aux côtés de l'acteur américain Tom Hanks et de Ghislaine Maxwell, l'ancienne compagne de Jeffrey Epstein. Epstein, le tristement célèbre homme d'affaires et criminel, accusé d'avoir réduit en esclavage des dizaines de jeunes filles au profit de la haute société américaine. Ce prédateur sexuel, pour rappel, a été retrouvé mort dans sa cellule en 2019, alors qu'il attendait d'être jugé pour trafic de mineurs. Mais son image toxique est régulièrement employés sur les réseaux pour discréditer tous ceux qui sont prétendument apparus à ses côtés. Pareil pour l'image de son ex, Ghislaine Maxwell, donc considérée comme la co-organisatrice du trafic et condamnée à 20 ans de prison en 2022 avant de faire appel.
Et en l'occurrence, on trouve beaucoup de montages mettant en scène Epstein avec des personnalités.
Oui, fin janvier déjà était apparue une photo trompeuse censée montrer le Premier ministre canadien, Mark Carney, aux côtés de Jeffrey Epstein, dans la piscine de la propriété du milliardaire. Cette image non datée avait été relayée par plusieurs comptes de la sphère pro-Trump. On estime qu'elle a été vue plus de 200 000 fois rien que sur X. La photo est apparue lorsque l'ancien Premier ministre, Justin Trudeau, a annoncé sa démission, lançant ainsi la course à la direction du Parti libéral. Cette photo est devenue virale peu après la victoire de Marc Carney à la tête du parti le 9 mars dernier.
À y regarder de près, il est facile de déceler les indices permettant de dire que cette image a été fabriquée par IA.
Oui, même si cette image est plutôt bien faite, ses auteurs ont par exemple volontairement dégradé la qualité pour brouiller les pistes. Mais si on s'attarde sur l'arrière-plan, on distingue plusieurs incohérences. Les filles en maillot de bain dans la piscine ont le visage déformé et l'avant-bras de l'une des baigneuses a une forme de S qui ne correspond pas à la réalité. Constat similaire sur la photo de Tom Hanks et Ghislaine Maxwell. Là encore, les doigts sont déformés et une partie du siège est manquant sous la cuisse droite du Premier ministre canadien Marc Carney. Enfin, si on effectue une recherche par image inversée, on s'aperçoit aussi que cette image a déjà été partagée en ligne et qu'elle porte en bas à droite la mention Grok. C'est la signature de l'intelligence artificielle générative d'Elon Musk.
Oui, mais comme souvent, il y a toujours une part d'ambiguïté dans cette infox.
Oui, car en effectuant des recherches poussées, on retrouve une photo a priori authentique de Marc Carney à deux pas de Ghislaine Maxwell. Cette photo a refait surface sur les réseaux en janvier 2025, mais en fait, elle date de 2013. Marc Carney, alors gouverneur de la Banque d'Angleterre, avait été photographié lors d'un festival avec sa femme, Diana Fox, et d'autres personnalités de la société mondaine britannique, dont Ghislaine Maxwell. Lors de la republication de ce document, l'équipe de campagne de Carney a démenti tout lien, affirmant que Carney et Maxwell ne sont pas amis.
Olivier Four pour les Dessous de l'Infox. Merci beaucoup. Bientôt 6h en temps universel et sur la radio du monde. L'info revient dans 30 secondes. À tout de suite.
8 milliards de voisins.
Diarra Ndiaye attend vos témoignages sur le thème d'aujourd'hui.
Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Nous mettons ce sujet sur la table sans détour, avec des chiffres, des témoignages et des experts. Alors comment s'attaque-t-on à ce problème ?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.